Alors, deuxième point, la question des avantages comparatifs. Alors, les avantages comparatifs, vous avez étudié ça en cours pour les étudiants, les enseignants, j'en parle pas. Oui, non ? Ça vous dit quelque chose ? Magnifique. Alors, les avantages comparatifs, qui est l'argument phare de la théorie du commerce pendant très très longtemps, donc pour expliquer le commerce. L'idée, les théories du commerce, c'est qu'un truc... la théorie économique, c'est pas compliqué, hein, d'accord ? En tout cas, les questions qu'on se pose au départ, elles sont toujours simples. Et donc, en théorie du commerce, c'est très très simple. La seule question que se posent les théoriciens du commerce, c'est-à-dire les gens comme moi, c'est « Mais pourquoi donc est-ce qu'on échange, on exporte et on importe ?» C'est tout. D'accord ? C'est juste ça. Alors, c'est pas une question si simple que ça, parce que, par exemple, ma grand-mère n'a jamais compris. Et ma grand-mère n'est pas idiote, hein, elle habite dans le nord de la France, et effectivement, elle se dit « Mais pourquoi... » Enfin, elle comprend bien, hein, comprend bien qu'on importe des bananes, hein. Bon, essentiellement de Guadeloupe, donc en fait, on ne les importe pas. Mais elle comprend bien, ça, d'accord. Mais par contre, elle habite dans le nord de la France, et elle ne comprend pas pourquoi on irait importer des chemises, des t-shirts en provenance d'Asie, alors que dans le nord de la France, quand elle était jeune, y avait plein de gens qui savaient faire du textile très bien. Des bons ouvriers, des bonnes entreprises, de la bonne technologie, du bon design, tout. On savait faire du bon textile dans le Nord. Tout ça a disparu, et pour importer des produits. Et en fait, elle ne voit pas le point. Mais pourquoi est-ce qu'on peut faire des choses ? On importe des choses alors qu'on pourrait les faire nous-mêmes. Okay. Et donc la réponse première à cette question-là, en fait, elle est venue assez tard dans l'histoire de la pensée économique. Hein. On la doit, elle est attribuée à Ricardo... On la doit moitié à Ricardo, moitié à Robert Torrens, qui lui est... Donc Ricardo est très connu, hein. Robert Torrens, lui, il est inconnu. Mais c'est un co-découvreur. Donc c'est une idée extrêmement puissante pour expliquer pourquoi est-ce qu'on commerce. Et ça a généré une histoire de la pensée économique un peu spéciale, parce qu'en réalité, cet argument, qui est intellectuellement très fort... a trouvé aucune validation empirique très sérieuse pendant longtemps. Hein. Donc, on n'avait pas de preuve que vraiment ça marchait comme ça, le monde. Et c'est que maintenant qu'on commence à lui redonner un petit peu des couleurs. Pour deux raisons, on lui redonne des couleurs et un peu d'importance à cet argument-là qu'on avait fini par oublier. Pour deux raisons, d'une part parce que le monde a changé et que peut-être que c'est aujourd'hui plus important que ça ne l'a été il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, et puis aussi parce que on a de meilleurs outils pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors je rentre dans les détails. On va faire de la théorie. La théorie en économie, hein, c'est, enfin, on peut le dire, oui, entendre ici ou là que les économistes vivent dans des tours d'ivoire, ils ont des modèles totalement absurdes, déconnectés de la réalité, etc. C'est vrai. C'est fait pour, d'accord ? La théorie économique, c'est une fable, d'accord ? C'est des fables pour les enfants. Ce qui est bien quand on fait la théorie, c'est qu'on peut raconter n'importe quoi. Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et on peut en débattre longuement, mais moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Alors, supposons des petites histoires, et je vous raconte une petite histoire. Donc, supposons que l'Union européenne produise 10 millions de chemises. 10 millions de chemises. Okay. Le truc, c'est que pour fabriquer des chemises, il faut utiliser des ressources. Donc, il faut employer des travailleurs, par exemple. Et donc, et pendant que ces travailleurs ils travaillent là, ils ne travaillent pas ailleurs. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais il y a du chômage. D'accord. Bon, il faut employer des ingénieurs et très qualifiés. Et ces ingénieurs très qualifiés, il n'y a pas de chômage. Donc, voilà, peu importe. Il y a bien un moment où il y a des ressources et ces ressources sont rares. Et donc, si on les emploie à faire ça, on ne les emploie pas à faire autre chose. Et donc, je ne fabriquais pas ces 10 millions de chemises, je pourrais utiliser ces travailleurs pour faire autre chose, par exemple 10 000 voitures. C'est une fable, ça n'a rien de réel. Hein, d'accord. Et donc, on va dire que le coût d'opportunité des chemises en termes d'automobile, c'est de 10 000. Pour fabriquer 10 millions de chemises, il faut renoncer à fabriquer 10 000 voitures. Combien ça vous coûte de fabriquer 10 millions de chemises ? Ça vous coûte à... le fait de ne pas fabriquer 10 000 voitures. C'est ça que ça vous coûte, à votre économie globale. Alors en Chine, c'est pareil, ils peuvent fabriquer des voitures, ils peuvent fabriquer des chemises, mais simplement pour fabriquer 10 millions de chemises, les ressources nécessaires à la fabrication de 10 millions de chemises ne leur permettent de fabriquer que 3000 voitures. Pourquoi ? Parce que les technologies pour fabriquer des voitures sont un peu moins bonnes, la productivité dans l'industrie automobile en Chine est un peu moins bonne qu'en Europe. Et donc voilà. Imaginons qu'il y ait quelqu'un qui décide que ça suffit maintenant, les chemises en Europe, vous arrêtez. Et faites des voitures en Europe, et puis par contre, les Chinois vont faire des chemises. Bon, très bien. Oui, chef, bien chef. On y va. Donc l'Union européenne réduit sa production de chemises de 10 millions. Et en inverse, elle demande à la Chine de fabriquer les 10 millions de chemises, parce que sinon on n'a pas de quoi se vêtir. Donc au final, la production mondiale de chemises n'a pas changé, hein. Mais en réduisant sa production de 10 millions de chemises, l'Union européenne peut fabriquer 10 000 voitures de plus. Et pour fabriquer ces 10 millions de chemises de plus, la Chine doit prendre des ressources de l'industrie automobile, j'ai que deux secteurs ici, et donc renoncer à produire des voitures. Elle va renoncer à produire 3 000 voitures, et donc je vais faire apparaître dans mon économie mondiale 7 000 voitures. Voilà, j'ai un gain qui est apparu. J'ai pas créé plus de travailleurs, j'ai pas créé plus de ressources. J'ai juste changé l'allocation des ressources selon les secteurs et les pays. Et ça m'a fait apparaître des biens. C'est un truc un peu magique. Et c'est ça les avantages comparatifs. C'est simplement utiliser les différences de coûts d'opportunité entre la Chine et l'Union européenne pour obtenir une meilleure allocation des ressources, une allocation plus optimale des ressources et augmenter la production mondiale. D'accord. Et donc au final, ça c'est le principe des avantages comparatifs, c'est un principe extrêmement général qui permet de nous répondre à la question qui est pourquoi est-ce qu'on commerce. Donc le principe général, si je généralise mon petite théorie ici, c'est que à partir du moment où toute production implique un coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à une production pour augmenter la production d'autres choses. Chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les activités qui offrent le plus petit coût d'opportunité, c'est-à-dire là où c'est le plus efficace relativement aux autres. Et donc tous les pays ne vont pas assurer toutes les productions pour lesquelles ils sont les plus efficaces, même si l'Union européenne est plus productive dans tous les biens, dans tous les secteurs d'activité, eh bien l'Union européenne ne va pas fabriquer tous les secteurs, tous les biens, elle va se spécialiser. Et elle va se spécialiser dans le bien la productivité est relativement plus forte. Et donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué à délivrer comme message. C'est que tout est très relatif. Hein. C'est les avantages comparatifs, pour ceux qui aiment les maths, c'est un double ratio. Hein. On se compare un secteur par rapport à l'autre, ça c'est un ratio, puis après on recompare ce ratio avec un autre pays, et donc ça fait une configuration un petit peu compliquée. Et donc en réalité, c'est un principe assez général, parce que n'importe quelle différence structurelle entre les pays qui génère une différence de coût d'opportunité, de coût relatif de production, si vous voulez, est source d'un avantage comparatif et donc de commerce. Donc on a des différences de technologie, ça c'est le modèle Ricardo, c'est des différences de productivité, voilà, pour des raisons inconnues, c'est comme ça. On a des différences de dotation en facteur de production, ça c'est le modèle Ekscher, Olin, Samuelson, quand même un modèle où il y a deux prix Nobel, c'est pas si mal. Le fait que certains pays sont richement dotés en capital, d'autres richement dotés en travail, font que dans le pays où on a beaucoup de capital, le capital est relativement bon marché, le travail étant rare, il devient cher. Donc c'est les pays développés, le travail est cher. Il est relativement moins coûteux de fabriquer des biens qui utilisent beaucoup de capital, parce que ce facteur est bon marché, que des biens qui utilisent beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça que les pays développés vont fabriquer des produits qui sont intensifs en capital, plutôt que des produits intensifs en travail, ils vont fabriquer des avions et laisser la Chine fabriquer des t-shirts, voilà, intensifs en travail. Mais finalement, l'argument est exactement le même. Et en réalité, n'importe quoi d'autre qui fait changer les coûts d'opportunité ou les prix relatifs des biens d'un pays à l'autre est une source d'avantages comparatifs et fonctionne très bien. Ça peut être des préférences des consommateurs. Si dans un pays, on adore les chaussettes, les chaussettes vont être très chères, parce que les consommateurs, ils en demandent beaucoup, et si la demande est forte, les prix sont élevés. Et donc, ce pays-là va avoir intérêt à importer des chaussettes plutôt que les fabriquer, on va avoir du commerce. Ça peut être la fiscalité, l'État dit « Ah non, les chaussettes, c'est mal, et je taxe les chaussettes deviennent chères, et donc on va se mettre à les importer. » N'importe quoi qui va créer des différences entre les pays génère des avantages comparatifs. Donc, c'est un modèle assez général, le principe des avantages comparatifs. Et effectivement, l'essentiel du message, si on veut parler de spécialisation du commerce international, c'est en termes de dotation en facteurs, les pays bien dotés en capital humain, en travail qualifié, en capital physique, vont se spécialiser en certains produits plutôt sophistiqués, plutôt complexes, les autres dans des produits plutôt simples. Les pays qui sont abondants en terre vont se spécialiser en produits agricoles. C'est pour ça, l'Australie est un pays développé, essentiellement exportateur de produits agricoles. Pourquoi ? Parce que c'est très grand. Les États-Unis, c'est un pays très développé, très intensif en recherche et développement, très intensif en capital humain, en travail qualifié. C'est en fait une grosse ferme, les États-Unis. Ce qu'ils exportent, c'est surtout quand même des produits agricoles. Bah oui, ils ont beaucoup de terres, encore plus que tout. Donc, les facteurs de production vont déterminer les avantages comparatifs. Les différences de technologie, les pays avancés qui ont des technologies plus sophistiquées vont produire des biens plus sophistiqués. Très bien. Et donc, les modèles d'avantages comparatifs, donc on connaît ça depuis le début du 19e siècle, jusque dans les années 80, c'est le seul argument qui va expliquer le commerce international. Pourquoi les pays commercent ? Parce qu'il y a des avantages comparatifs. C'est le seul truc qu'on a en théorie. On a plein de théories différentes d'avantages comparatifs, mais enfin, en gros, c'est la même histoire, toujours. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on n'a aucune preuve que ça marche vraiment comme ça. Ce qui est un petit peu embêtant, quand même. Mais les théoriciens en économie, quand ils n'ont pas de preuve empirique que leur modèle fonctionne, ils ont intérêt à chercher un autre modèle. Mais quand ils ne trouvent pas d'autres modèles, ils continuent quand même avec celui qui ne marche pas. Parce qu'il faut bien travailler quand même. Alors bien sûr, il y a quelques évidences qui vont dans le bon sens. Je passe ça, mais c'est très difficile. Juste un point pour mettre un petit peu d'actualité dans la présentation. On a aujourd'hui des évidences un peu plus précises que le modèle pur de Ricardien, très simple, fonctionne. En réalité, ce modèle, il est impossible d'avoir des évidences empiriques de ce modèle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comparer des productivités dans les différents secteurs. Par exemple, la Suède a sans doute une productivité très très faible dans la production de bananes. Elle pourrait fabriquer des bananes, mais il faudrait chauffer, éclairer. Ça ferait des coûts énormes et donc une productivité très faible. Et donc c'est pour ça qu'ils n'en fabriquent pas. La question c'est, comme ils n'en fabriquent pas, je ne peux pas savoir quelle est la productivité de la Suède dans les bananes et donc je ne peux pas dire qu'ils ont une productivité faible dans les bananes. Ils n'en fabriquent pas. Et donc je ne peux pas tester empiriquement le modèle. Alors il y a des petits malins. Oh, des gros malins qui ont fait ça quand même. Notamment Arnaud Costino, qui est un théoricien du commerce qui prend une ampleur importante dans la recherche mondiale. Il ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ressemble à vous, quoi. Donc, il ressemble vraiment à un gamin, il est vraiment très jeune. Il est juste prof au MIT. Bon. Il est juste un petit peu surdoué. Et c'est un des Français importants de la science économique expatrié aux États-Unis. Et donc, ils font juste un petit truc sympathique. En fait, ils vont tester le modèle en utilisant des données qui sont fournies par des agronomes. Les agronomes peuvent repérer une parcelle de terre et dire, sur cette terre, on peut fabriquer de la betterave, on peut fabriquer du blé, on peut fabriquer de la canne à sucre, etc. Et selon les conditions climatiques, la nature du sol, ils peuvent effectivement calculer quelle est la productivité de cette terre. Même si elle est utilisée pour fabriquer du blé, ils peuvent savoir quelle serait sa productivité pour fabriquer de la canne à sucre. Et donc pour ça, on a toutes les productivités de toutes les terres dans le monde, et c'est un projet global. Et donc on a sur la planète entière, pour tout un tas de parcelles de terres, mais ça fait des millions de données, la productivité de ces terres dans chacun des secteurs. Et donc là, ils calculent quelle serait la prédiction d'un modèle théorique très simple, fondé sur les avantages comparatifs, donc sur les différences de productivité, pour expliquer la production mondiale, et ils comparent ça à la réalité. Et ils trouvent qu'effectivement, alors je vous passe parce que ce n'est pas très joli à voir, ils trouvent effectivement une corrélation très forte entre la réalité et le modèle, c'est-à-dire que effectivement, l'allocation des cultures sur les différentes terres correspond bien aux avantages comparatifs. Ce qui est important, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on va utiliser la terre pour ce pourquoi elle est la plus productive. On ne va pas fabriquer des betteraves ici parce que c'est ce qui va générer le plus de productivité sur cette parcelle. C'est ce qui est relativement plus productif. C'est-à-dire que je vais fabriquer des betteraves ici, même si fabriquer du blé, ce serait beaucoup plus productif, parce qu'en réalité, comparer cette parcelle de terre dans la betterave à une autre parcelle de terre dans la betterave, la différence, elle est plus importante que dans le blé. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez subtil. Hein. Et donc on arrive bien à toucher le cœur des évidences. On a aussi des grosses évidences suggérant que le modèle Ekscher-Rollin-Samuelson, donc le modèle qui nous dit les pays qui ont beaucoup de travail qualifié doivent se spécialiser dans des produits, dans la production qui utilisent beaucoup de travail qualifié. Donc l'Union européenne, la France doit se spécialiser dans la production de centrales nucléaires et d'avions, parce que ça utilise beaucoup de travail qualifié. Et puis le Vietnam doit se spécialiser dans la production de textiles, parce que ça demande pas beaucoup de travail qualifié, mais surtout du travail non qualifié. Donc ça, ce modèle-là, on a aussi des grosses évidences empiriques qui nous disent que dans les grandes lignes, ça marche. On a notamment ce papier de John Romalis, qui est un économiste australien, qui a l'avantage de fabriquer des graphiques, enfin de proposer des graphiques qui sont assez sympathiques. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un très grand nombre de biens, donc il prend des milliers de produits, hein, et il calcule le degré d'intensité en travail qualifié de ces produits. Donc on va avoir, par exemple, ici, donc il les classe par degré d'intensité en travail qualifié. Donc ici, on va avoir les avions, très intensifs en travail qualifié, puis là, on va avoir les allumettes, hein, ou le textile. D'accord ? Et puis là, les biens un peu moins, donc les casseroles, puis après là, on va avoir des machines-outils, puis après, on va avoir des biens d'optique, etc. Okay. Et ça, c'est la part de chacun de ces produits dans les exportations de l'Allemagne, c'est la courbe noire, et du Bangladesh, c'est la courbe plus claire, vers les États-Unis. Et donc ce qu'on voit, c'est que les Allemands, eh bien, ont tendance à exporter beaucoup plus des biens qui sont intensifs en travail qualifié que des biens qui sont intensifs en travail non qualifié. Ils le font quand même, hein. Ils exportent du textile vers les États-Unis, mais beaucoup moins que des produits intensifs en travail qualifié. Et puis le Bangladesh, c'est le contraire. Okay. Donc, le Bangladesh est bien spécialisé dans des produits qui, globalement, sont intensifs en travail non qualifié. L'Allemagne produit plutôt des biens intensifs en travail qualifié. Donc on a bien une spécialisation des pays, une division internationale du travail qui correspond aux avantages comparatifs. Heureusement, hein, parce que quand même, sinon, ce serait un peu grave. En dynamique, ça marche aussi. Là, c'est pour les pays, les nouveaux pays industrialisés qui ne sont plus tellement nouveaux, hein, Singapour, Hong Kong, Taïwan, Corée. Et c'est la même courbe pour ce groupe de pays-là dans les années 60, dans les années 80 et dans les années 80, et en 98. Et donc là, on le voit, dans les années 80, ces pays-là exportaient surtout des produits qui étaient intensifs en travail non qualifié. Puis ils se sont développés, et maintenant, ils exportent dans les années 90, à la fin des années 90, eh bien, cet avantage, cette spécialisation dans les produits intensifs en travail non qualifié a disparu. Donc on a bien une évolution de la structure des échanges, donc des spécialisations qui correspond à l'évolution des dotations en facteurs des pays. On est rassuré, mais quand même, quand on est économiste, on cherche à regarder plus que le... Enfin, on veut savoir si le modèle théorique marche mieux que grosso modo. D'accord ? Grosso modo, c'est bien, mais est-ce que vraiment il marche ? Et quand on regarde dans les détails, là, ça devient un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces modèles-là, ils sont extrêmement contraints. Les modèles d'avantage comparatif, c'est des modèles très compliqués. C'est des modèles qu'on peut faire avec un bien, un facteur de production, deux biens, deux pays, ou alors avec deux facteurs de production, deux biens, deux pays. On peut faire avec deux biens, plein de pays, ça va. Mais si on augmente le nombre de biens, le nombre de pays, le nombre de facteurs, ça devient très compliqué. Hein. Mathématiquement, ça fait des grosses machines théoriques. Économique, c'est les maths. Hein. On a du mal à voir. Donc, en fait, ces modèles, ils marchent bien quand ils ont des petites dimensions, et ça, c'est pas très réaliste. Hein. Dire j'ai qu'un seul facteur de production et j'ai que deux biens, bon, c'est bien pour raconter des histoires, mais quand on va aller confronter ça à la réalité des données, forcément, notre modèle est un petit peu trop frustre. Et puis, d'autre part, les prédictions théoriques sont trop fortes. Hein. Dans le modèle ricardien, on a des spécialisations complètes, on a des mouvements très, très puissants de spécialisation qu'on va avoir du mal à regarder. Et donc... On a tout un tas d'analyses empiriques de ces modèles d'avantages comparatifs qui disent « ça marche mais alors, carrément pas ». Quand on regarde vraiment dans les détails, en fait non, ça fonctionne pas. Il n'y a que très récemment, c'est-à-dire dans les années 2000, qu'on commence à dire « si, en fait, ça marche, mais c'est plus subtil que ça. Il faut travailler un peu la théorie pour étendre un peu la théorie. Puis il faut mélanger tous les arguments d'avantages comparatifs ensemble. » Ce n'est pas juste les différences de technologie entre les pays qui expliquent la spécialisation, ce n'est pas juste les différences de dotation factorielle, c'est les différences de technologie plus les différences de dotation. Et même ça, ça ne suffit pas. Il faut mettre les différences de préférence des consommateurs. Le fait que les Américains, ils ont une préférence pour les biens high-tech par rapport au Sri Lankais. Et donc, si on met tout ça ensemble, puis qu'on mouline bien, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une validation empirique, mais c'est un peu... C'est un peu au chausse-pied, c'est un peu difficile. Et donc ça, c'est un peu gênant, parce que, pour deux raisons. Hein. D'une part, quand on est théoricien, qu'on voit l'argument des avantages comparatifs, pas juste théoricien du commerce international, théoricien de n'importe quelle discipline de la science économique, on se dit, ça c'est quand même un beau modèle. Hein. Et quelque part, l'économiste, il a beau vivre dans un monde imaginaire... il est persuadé que ça doit marcher. Quand c'est un argument théorique bien fondé, quelque part, ça doit être vrai. Ou alors, parce que c'est logique. Et donc, ce qui est logique doit fonctionner. Donc ça, c'est un peu gênant. On se dit, zut quand même, si ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, d'autre part, c'est un peu gênant parce que, comme j'ai dit, on n'a pas d'alternative. On ne sait pas expliquer le commerce autrement que ça, jusque dans les années 80. Et là où ça devient vraiment gênant, mais en même temps rassurant, c'est qu'en réalité, les avantages comparatifs n'expliquent pas tout le commerce. Notamment, ils n'expliquent pas ce qu'on appelle le commerce intra-branche, le fait qu'on exporte des produits et on importe le même produit. Ça m'explique pourquoi je me spécialise, pourquoi j'exporte des avions vers le Bangladesh et que j'exporte du textile en provenance du Bangladesh. Mais ça ne m'explique pas pourquoi j'exporte des voitures vers l'Allemagne et j'importe des voitures allemandes. Ça, les avantages comparatifs ne peuvent pas me le dire pour deux raisons, parce que ça marche, les avantages comparatifs, c'est un argument qui pousse à la spécialisation. Donc là, si j'importe, j'exporte le même produit, je n'ai pas de spécialisation. Et puis, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas non plus des tonnes d'avantages comparatifs. On n'a pas des pays très différents en termes de dotation, de technologie. Donc pourquoi est-ce que la France a pour premier partenaire commercial l'Allemagne ? Ça, l'avantage comparatif, il ne peut pas me le dire. Pourquoi est-ce que ce que j'échange avec l'Allemagne, c'est essentiellement ce que j'importe en provenance d'Allemagne, c'est essentiellement des trucs que j'exporte aussi vers l'Allemagne ? Ça, l'avantage comparatif ne peut pas me le dire. Et finalement, c'est plutôt rassurant. Ça veut me dire que l'avantage comparatif, c'est peut-être vrai, mais ça n'explique pas tout. Donc il faut une autre théorie, pour le coup, pour m'expliquer le reste. Et donc ça, c'est le degré de... C'est une mesure du degré d'intrabranche. Donc elle mesure les pays importent et exportent simultanément les mêmes biens. Et on voit qu'effectivement, là, depuis 62 jusqu'à une période récente, eh bien, ça augmente. De plus en plus, on commerce en intra-branche, et donc de moins en moins sur des arguments fondés sur des avantages comparatifs. Et donc, dans les années 80, on a la naissance de nouvelles théories du commerce qui sont vraiment nées de la volonté d'expliquer les avantages comparatifs et qui sont dues en bonne partie à Paul Krugman, à Alan Altman aussi, mais c'est Paul Krugman qui a raflé la mise avec en obtenant le prix Nobel là-dessus. Il a réussi à apporter des nouvelles théories. Pourquoi ? Parce qu'il voulait dire autre chose et notamment expliquer le commerce intra-branche, donc il fallait sortir des avantages comparatifs. Et puis il avait des nouveaux outils théoriques qui lui permettaient de faire ce qu'il voulait. Pour expliquer ça, il faut de la concurrence imparfaite et bon, c'est un peu compliqué à manipuler en théorie. Donc ces théories vont expliquer l'intra-branche, vous les avez évoquées tout à l'heure, c'est le désir des consommateurs de consommer plusieurs variétés, donc une voiture allemande, c'est pas pareil qu'une voiture française. Et donc, certains consommateurs français préfèrent acheter une BMW plutôt qu'une Renault. Certains consommateurs allemands préfèrent l'inverse. Très bien. Et donc, ça explique l'intra-branche. Ça explique pourquoi on peut commercer entre pays qui sont similaires, qui n'ont pas d'avantages comparatifs. C'est des modèles qui sont extrêmement flexibles, qui sont vachement bien, donc qui vont très rapidement devenir populaires au sein des économistes, parce qu'ils sont très flexibles. On peut jouer avec, ils sont très simples. Et on peut mettre plein de pays, on peut le faire à deux pays, on peut le faire à plein de pays, c'est pareil, ça change rien, c'est très, très, très facile à faire. On peut mettre plein d'autres biens, on peut mettre des avantages comparatifs dedans, on peut mélanger les modèles d'avantages comparatifs et ça, comme ça, ça nous donne quelque chose d'un peu plus, pour le coup, qui explique bien le commerce. On peut introduire des coûts de transport très facilement dans le modèle d'avantages comparatifs, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est très simple. Et puis... Ils marchent très très bien, ils expliquent très très bien le commerce, ils ont une validité empirique qui est très forte, et donc ils sont devenus très populaires. Et donc, à partir des années 80 jusque dans les années 2000, les avantages comparatifs sont sortis du paysage universitaire, de vieilles histoires. Vous avez dans un article célèbre, un économiste international... connu, Davis, qui vous explique que les avantages comparatifs, c'était devenu un petit peu comme une vieille photo de famille qu'on descend du grenier pour montrer à un cousin qui vient d'arriver dans la maison, puis après qu'on range, quoi. Donc on montre ça aux étudiants en début de cours, et puis après on n'en parle plus parce que c'est pas le point. Donc ça a totalement disparu du paysage, parce que ça marchait pas empiriquement, parce que c'était compliqué, c'était pas très pertinent. Et puis depuis quelques années, c'est pour ça qu'on a le retour des avantages comparatifs, ce qui est un grand classique en sciences économiques. Comme on n'innove pas beaucoup en sciences économiques, en fait, on recycle. On va chercher des vieilles idées, puis on met au bout du jour, et ça fait comme si c'était nouveau. Les gens oublient, c'est parfait. Donc, on a un retour en force des arguments en faveur des avantages comparatifs. Pourquoi ? Parce que... on a des réalités économiques qui justifient, qui laissent entendre que les avantages comparatifs aujourd'hui seraient plus importants que ça ne l'a été. D'où la nouvelle structure du commerce international. Et puis, des avancées théoriques qui donnent un peu plus de fondamentaux d'assises à cet argument-là. Je passe sur la théorie parce que, pour le coup, les nouvelles théories des avantages comparatifs, là, ça a se tapé la tête contre les murs. Le modèle ricardien, c'est extrêmement simple. Les nouveaux modèles d'avantages comparatifs, donc c'est Jonathan Eaton, qui en fait est très sympathique, contrairement à ce qu'il a l'air, et Sam Kortum, ont proposé un modèle qui a été très utilisé, notamment par Arnaud Costino, etc. Mais ces gens qui sont très puissants en modélisation théorique, et donc ils font des modèles, c'est un peu compliqué, il y a des trucs stochastiques, c'est assez lourd à transporter, mais en même temps, c'est des modèles qui sont assez pertinents qui couvrent bien le champ. On peut les étendre très facilement à plein de produits, plein de pays. On peut expliquer très bien le commerce mondial avec ça. On peut mettre des coûts de transport, ce qui est quand même une bonne chose parce que ça existe, etc. Donc c'est des modèles qui sont très bien, qui sont un petit peu costauds. Et puis, donc ça, c'est la partie nouveaux outils théoriques qui nous permettent d'avoir un regain de la part des théoriciens pour les modèles d'avantages comparatifs. Finalement, ils ont des nouveaux jouets et donc ils s'en servent. Et puis, sur le volet empirique, il y a des arguments qui laissent entendre qu'effectivement, il y a de plus en plus d'arguments en faveur d'une pertinence des avantages comparatifs. Notamment, on ne pense plus aujourd'hui, comme on a pu le penser dans les années 80-90, que l'existence du commerce intra-branche, c'était l'évidence que les avantages comparatifs ne comptaient pas. Non, au contraire, c'est pas incompatible d'avoir du commerce intra-branche et des avantages comparatifs. C'est vrai pour des raisons compliquées, techniques, dans ces modèles-là. C'est vrai pour des raisons plus prosaïques. Ça, c'est le dada de Peter Schott, qui est prof d'économie à Yale. Et il regarde le commerce américain. Moi, j'aime bien ce graphique. Il est moche, mais je l'aime bien. Il aurait pu le faire joli pour le même prix, mais regarde le commerce américain, regarde les importations américaines, et puis regarde, il classe les importations pour chaque produit, et il y en a des milliers, hein, il a 8000 produits, hein, 8000 produits différents. Pour chaque produit, il regarde s'il y a un ou plusieurs exportateurs qui vendent vers les États-Unis. Et puis, il classe les produits selon qu'ils sont exportés uniquement vers les États-Unis par des pays pauvres, à bas salaire, des pays à salaire moyen ou des pays à haut salaire. Et donc, c'est ça. Hein. Alors, les courbes vertes et marron, elles sont là tout en bas, elles n'existent pas. La courbe rose, elle est là. Donc, il y a certains pays qui ne sont sourcés que par un type de pays. D'accord ? Donc, des allumettes, ça n'est sourcé que par des pays très pauvres ou par des pays très riches, parce qu'en réalité, elles vont venir du Canada. Les lasers, ça n'est sourcé que par des pays très riches. Bon, très bien. Et puis là, c'est en rouge, c'est les produits qui sont importés à la fois par un pays riche, par un pays de niveau de vie intermédiaire et par un pays pauvre. Donc il y a les trois types de produits de pays qui participent aux importations. Et là, on voit effectivement une croissance très nette. Donc on a une source de plus en plus le même bien en provenance de pays très différents. Mais en même temps, ce que nous dit Peter Schott, c'est que quand on regarde les prix, les prix, eux, ils sont très différents aussi. Les pays pauvres, ils vont, c'est ce qu'on voit sur ce tableau-là, mais ce n'est pas très clair, hein, c'est une corrélation entre le PIB par tête, ici, et le prix des log unit value, hein, c'est le prix du commerce. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre la valeur, le prix des exportations des pays et leur PIB par tête. Ça veut dire que effectivement les pays riches et les pays pauvres peuvent exporter les mêmes biens vers les États-Unis. Mais les pays riches vont exporter des biens chers et les pays pauvres vont exporter le même bien mais pas cher. Si les Américains achètent à la fois des biens chers et des biens pas chers, c'est peut-être vraisemblablement que les biens chers ont aussi une meilleure qualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pays riches sont spécialisés dans les hautes qualités, les pays pauvres dans les basses qualités, ce qui fait un peu sens, mais ce qui veut dire que, il peut y avoir du commerce intra-branche, c'est pas un problème, simplement, et des avantages comparatifs, simplement les avantages comparatifs sont à l'intérieur des secteurs, selon les gammes de qualité. Et donc ça c'est la même chose d'une autre façon. Et donc on peut avoir des avantages comparatifs en sein des secteurs, entre les gammes de qualité, mais même au sein des entreprises. Parce que la baisse des coûts du commerce, la baisse des droits de douane, etc., la baisse des coûts de télécommunication, Internet, le téléphone gratuit, etc., permet effectivement une plus grande fragmentation des chaînes de valeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et fragmenter les chaînes de valeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une partie de ma valeur ajoutée, je vais la faire ailleurs, et une autre, je vais la faire ailleurs. Et donc ça veut dire qu'on voit gonfler le commerce, par exemple, de pièces automobiles. Mais en fait, c'est la même pièce automobile qui va faire plusieurs pays pour être complétée. Donc, j'ai un produit qui est moteur de camion. Mais moteur de camion, c'est juste une carcasse de moteur qui va sortir d'une fonderie quelque part, qui va aller dans un autre pays, on va lui rajouter des trucs, qui va aller rajouter dans un autre pays, qui va rajouter des trucs. Et donc, mon moteur, il fait plein de fois la frontière. Et donc, effectivement, je vais avoir une démultiplication du commerce. Du commerce intra-branche, un pays va pouvoir exporter des pièces de camion, des moteurs de camion et importer des moteurs de camion, mais en réalité non, puisqu'il va ajouter un petit peu de valeur ajoutée dans le processus, et cette valeur ajoutée qu'il va apporter, elle correspond à ses avantages comparatifs. Donc une tâche qui est très simple, prendre le produit, le mettre dans une boîte, fermer le carton et mettre un autocollant dessus, hop, ça on va faire au Mexique dans un truc à bas salaire. Le truc où il y a des pièces extrêmement délicates qu'il faut faire dans un univers confiné et des soudures de haute précision, ça on va faire ça dans un pays développé. Donc on peut avoir du commerce intra-branche qui s'explique par une fragmentation à l'intérieur de la chaîne de valeur des entreprises entre les pays et qui pour le coup est fondée sur des avantages comparatifs. Donc on a bien le sentiment que les avantages comparatifs ça compte et ça prend de plus en plus d'importance. So what ? Au final, on est passé... Donc on avait des avantages comparatifs, mais vieille méthode, parce qu'on n'avait que ça. Bon, très bien. À partir des années 80, on a des nouvelles théories du commerce. Et puis aujourd'hui, on voit revenir sur le devant de la scène les avantages comparatifs, et avec des arguments à la fois théoriques et empiriques. Ok. Si on regarde ce dernier changement, le retour des avantages comparatifs dans les arguments expliquant le commerce international, qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est des histoires d'universitaires. Ils s'amusent avec leur modèle, mais ça intéresse personne. En fait, pas tout à fait, parce que les conséquences de la mondialisation, pour le coup, sont un peu différentes. La vision qu'on a du jeu de l'ouverture commerciale et des relations internationales vont être un peu différentes. Je m'explique. Les nouvelles théories du commerce, c'est-à-dire celles des années 80, truc à la Krugman, en fait, avaient besoin d'économies d'échelle pour fonctionner, donc de concurrence imparfaite et d'économies d'échelle. C'est-à-dire que plus je produis, plus je suis efficace. Si je produis à une grande échelle, je suis efficace. L'économie d'échelle, ça correspond bien à... Ah, ça correspond bien à la bonne grosse industrie qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la production de masse, c'est Detroit, les grands sites industriels des 30 Glorieuses, etc. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai de l'ouverture commerciale, des économies d'échelle et un peu de coûts de transport? Ce qui est le cas, l'existence des coûts de transport dans le commerce international, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il se passe que l'ouverture commerciale dans ce cadre-là donne une prime importante aux grands pays. Pourquoi ? Parce que plus vous produisez, plus vous êtes efficace. Si vous êtes un grand pays, vous êtes une entreprise implantée dans un grand pays, vous avez directement accès à un grand nombre de consommateurs. Et donc forcément, vous allez avoir une taille économique importante pour votre entreprise. Et comme vous êtes gros, et ben vous êtes efficace. Vous vous ouvrez au commerce, magnifique, vous êtes efficace... Donc vous avez des coûts faibles, et donc vous êtes très compétitif par rapport à vos concurrents qui sont implantés dans des petits pays loin du marché. Et donc, comme vous êtes très compétitif, vous avez gagné des bonnes parts de marché sur le marché du voisin. Vous allez encore augmenter votre production, et l'entreprise du pays voisin, qui elle est née sur un petit pays, et produit à une petite échelle et moins efficace, va voir cette concurrence l'écraser un peu, et va réduire ses parts de marché. Donc les entreprises qui sont sur des grands marchés ont un avantage à l'ouverture, puisqu'elles vont pouvoir gagner plus de parts de marché à l'étranger, grossir encore, plus elles grossissent, plus elles sont efficaces, plus elles sont efficaces, plus elles grossissent, et on boucle comme ça. Et donc ça conduit à une agglomération, une concentration de la production dans quelques pays ou dans quelques grands marchés. Donc on va avoir effectivement un développement qui est très inégal. Les pays développés, avec l'ouverture, profitent grandement de la mondialisation, puisqu'ils profitent de leur avantage de taille initiale pour conquérir le marché mondial. L'agglomération se fait aux États-Unis, en Europe, pour ce qui est de la production industrielle, qui bénéficie énormément croissant. Mais si on dit, maintenant on a baissé tellement les coûts du commerce et les coûts de communication qu'on peut fragmenter les chaînes de valeur plus facilement. Et puis on a des nouveaux modes de production, d'organisation des entreprises qui permettent effectivement cette fragmentation parce que les entreprises vont aller chercher le meilleur coût pour chaque élément, chaque segment de leur valeur ajoutée. À ce moment-là, on a quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que pour être efficace, il ne faut pas rassembler toute sa production dans des grandes unités de production, faire toutes les automobiles à Détroit, de A à Z, mais on va faire plein de petits bouts d'automobiles partout dans le monde et puis assembler ça... n'importe où, ça c'est juste un élément de la chaîne de valeur, tant qu'à faire, on va le faire à côté du consommateur. Donc pour les Brésiliens, on va assembler au Brésil, pour les Chinois, on va assembler en Chine, etc. À ce moment-là, on va avoir une dispersion de la production qui est fondée sur les avantages comparatifs, et il n'y a plus d'avantages aux grands pays. Au contraire, ce mouvement-là, il va être profitable aux pays pauvres, dans un premier temps, parce qu'on va étaler la production vers ces pays-là pour profiter des bas salaires. Donc les plus grandes possibilités de fragmentation de la chaîne de valeur, en fait, éliminent l'argument des économies d'échelle et éliminent l'avantage aux grands pays. Et sans doute que la fragmentation des chaînes de valeur a beaucoup participé à la croissance extraordinaire, pas sans doute, c'est sûr, à la croissance extraordinaire qu'ont connu les pays émergents, les pays d'Europe centrale, les pays d'Asie de l'Est dans ces dernières années. Et donc au final, c'est ce que vous pouvez le voir, hein, c'est en ligne, quand vous avez le prix Nobel, vous gagnez $1 million, c'est bien, mais il faut travailler un peu, il faut aller à Stockholm faire un discours. Et donc Paul Krugman, qui a reçu le prix Nobel pour les nouvelles théories du commerce, a fait un discours, Et Paul Krugman n'est pas très bon à l'oral, mais la façon dont il parle n'est pas super. Mais par contre, ce qu'il dit est vachement bien. Et donc, il reçoit le prix Nobel pour des théories, des nouvelles théories du commerce, et son speech de devant le comité Nobel consiste à dire, en fait, c'est déjà des vieilles lunes, c'est fini. Moi, j'avais des théories qui expliquaient que la mondialisation créer des inégalités parce qu'elle concentrait la production industrielle sur les grands marchés. Et aujourd'hui, on a des nouveaux modes de production qui permettent une plus grande fragmentation, et ça induit de la dispersion de l'activité industrielle partout dans le monde, et notamment en direction des pays pauvres. Et c'est pas mal, parce qu'il a le prix Nobel en 2008, on commence aujourd'hui à un peu affirmer ce qu'il dit avec des théories et des arguments empiriques plus précises. Mais il avait bien l'intuition de cela, où clairement, il dit, donc, j'ai eu le prix Nobel pour avoir apporté des théories alternatives aux avantages comparatifs, mais en réalité, ce qui se passe maintenant, c'est bien un retour en force des avantages comparatifs dans les explications du commerce international, et c'est pas sans conséquences pour la compréhension des conséquences de la mondialisation.